France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
À partir de la fin des années 60, alors que les grands noms américains et anglais de la critique rock commencent à publier en masse articles, chroniques, ouvrages, ils font beaucoup plus que de simplement renouveler le registre de la critique musicale. Ils inventent et ils donnent ces lettres de noblesse à un genre littéraire à part entière. Si bien que Nick Cohn, Grail Marcus, Lester Bangs et d'autres sont aujourd'hui considérés comme de véritables écrivains, au même titre que les grandes plumes du journalisme gonzo ou de non-fiction. L'émission que vous allez entendre dans un instant, qui est un numéro d'électrophonie diffusé en juin 2002, retrace à grands traits cette épopée musicale et littéraire qui s'est confondue à ses débuts avec l'histoire des grands noms du rock, avant de s'élargir à d'autres styles, jusqu'à la musique électronique. Deux éditeurs, Gérard Bérébi et Alexandre Lemonnier, évoquent un certain nombre d'ouvrages, de rééditions et surtout de grands noms du journalisme musical. En fin d'émission, Bastien Gallet donne la parole à Jean-Marie Courant et Jean-Philippe Verdun de la revue Own, un projet expérimental de revue musicale. Les musiques populaires et leur mise en récit d'une époque à l'autre, tel était donc le programme de ce numéro d'électrophonie, diffusé pour la première fois sur France Culture le 22 juin 2002.
Hi. Can you hear me? I have no way of knowing if you can hear me.
Vous écoutez Électrophonie, bonsoir. La musique se grave sur des CD, s'expose dans des galeries et se raconte dans des livres. Et ce sont souvent les livres, certains livres en tout cas, qui donnent à une musique ses lettres de noblesse. Le jazz, comme on le sait, a eu ses poètes et ses écrivains, le rock, ses critiques et ses littérateurs. Aujourd'hui, c'est au tour du hip-hop et des musiques électroniques d'avoir leurs théoriciens et leurs historiographes. Alors la France a mis longtemps, plus que les autres, à s'intéresser à cette littérature. Les grands textes, les critiques rock américains ont été publiés il y a peu. Et nombreux sont encore en attente de traduction. Quant aux ouvrages allemands, anglais et américains consacrés aux musiques électroniques, on commence seulement à s'y intéresser et à les traduire. Alors deux éditeurs ont entrepris de défricher cette littérature un peu oubliée, les éditions Alia d'abord, qui ont traduit et publié les livres des grands critiques rock américains, Grail Marcus, Nick Toschies, Nick Cohn, et les éditions Cargo, enfin, qui ont déjà publié le livre de David Toop sur l'ambient music et celui de Fernando Jr. sur le hip-hop, et qui feront paraître à la fin du mois d'août DJ Culture, la somme du critique allemand Ulf Poschardt. Alors on commence cette émission par un hommage au Lipstick Traces de Grail Marcus, apparu aux États-Unis en 89, et qui a attendu 10 ans sa traduction française. Il y a une figure centrale dans ce livre, une figure qui a plusieurs visages et porte différents noms, comme ceux de Guy Debord, Johnny Rotten, Saint-Just, Jean de Lede, Isidore Isou, et le dadaïste Richard Lusenbeck, ici en 67 à New York.
Hamashoy namango saben, samanufao tabulala ifsoto knai, Ifta mampo lamatogo intao okama okama. Palafo katango otamba tsnaro nchapato tsnaro suko latensta tampan okama okama. Pritten ful kshnai kish simpoto simpototo oknap patagai patnoi entupr opishi otishi okr okama okama. I'm reading now a poem that was made in 1916 in Zurich at the time of the Cabaret Voltaire. It was recited very frequently at the Cabaret Voltaire, and then later throughout the years, it's now 50 years since Dada started, It has been reproduced and reprinted very often. I like it very much, and I'm going to read this poem, which has the title Ende der Welt. So weit ist es nun tatsächlich mit dieser Welt gekommen. Auf den Telegraphenstangen sitzen die Kühe und spielen Schach. So melancholisch singt der Kakadu unter den Röcken der spanischen Tänzerin wie ein Stabstrompeter und die Kanonen jammern den ganzen Tag. Das ist die Landschaft in Lila, von der Herr Meyer sprach, als er das Auge verlor. Nur mit der Feuerwehr ist die Nacht mal aus dem Salon zu vertreiben, aber alle Schläuche sind entzwei. Ja, ja, Sonja, da sehen Sie die Zelluloid-Puppe als Wechselbalg an und schreien, God save the King.
God save the King, disait Lusenbeck en 67, reprenant un poème de 1916, lu, écrit au cabaret Voltaire de Zurich, le grand lieu des dadaïstes, qu'évoque longuement Grail Marcus. Et d'ailleurs, ce God save the King, on peut lire, un peu à la manière de Grail Marcus justement, le God save the Queen, de l'hymne anglais repris sauvagement par Johnny Rotten et les Sex Pistols dans les années 70, marquant le début de la déferlante sauvage punk. Donc tous ces fils se recoupent et se nouent dans le livre de Grail Marcus, Lipstick Traces, hein, une histoire secrète du XXe siècle, traduit en français aux éditions Alia, les éditions Alia dirigées par Gérard Bérébi, et j'ai rencontré justement Gérard Bérébi dans son bureau des éditions Alia, rue de Charlemagne, au fond d'une cour pavée. On l'écoute parler un peu de sa ligne, justement, de ses lignes éditoriales.
On a développé dans notre catalogue un certain nombre d'orientations éditoriales dans différents domaines à l'exclusion d'aucun. Et on a trouvé que dans l'édition française, il y avait un manque absolu d'ouvrages écrits par ce qu'on appelle la rock critique. Et la rock critique a été fondée par Nikon avec son premier livre « Awaba Blue Bap ». Était un tournant dans la critique musicale, en ce sens qu'il n'était plus question d'analyser un disque ou de parler d'un musicien, d'un groupe, d'un chanteur quelconque pop, mais de situer l'intervention de ces créateurs dans un contexte historique, politique, social, culturel. Et on a commencé avec le livre de Grail Marcus, Lipstick Traces, qui était un livre culte, un classique américain, qui a été traduit dans presque toutes les langues et de manière surprenante n'a jamais été traduit en français. Ça a été pour nous assez facile de l'obtenir et on a ouvert le bal ou les hostilités, c'est au choix, en commençant avec le livre de Grail Marcus. Et là, tout le monde a plongé de manière extrêmement positive, c'est-à-dire que tout le monde en a parlé, l'auteur est venu à Paris, tous les journalistes ont voulu l'interviewer, ça a été d'une facilité exemplaire, le livre a été repris en folio, en collection de poche sous licence, et devant l'accueil réservé à ce livre, on s'est aperçu très rapidement, bien qu'on en avait conscience en le faisant, qu'on avait ouvert une large brèche dans un domaine qui était quasiment vierge, même si certains éditeurs étaient intervenus de ci, de là, mais pas de manière conséquente et systématique.
Vos livres aussi trouvent des échos dans d'autres ouvrages que vous publiez, qui ne sont pas forcément des ouvrages sur la musique, des ouvrages qui ont trait plutôt à l'histoire culturelle ou à des manifestes qui peuvent remonter pour certains au début du siècle, les manifestes Dada par exemple, ou pré-situationnistes. Et quand on lit Grail Marcus, c'est vrai qu'il y a des références, nombreuses références qui ne sont pas musicales et qui trouvent des échos immédiats dans d'autres ouvrages que vous publiez. Donc on sent malgré tout qu'un univers, une sorte de monde éditorial se met en scène petit à petit avec différents ouvrages et qu'ils se font tous échos de manière parfois souterraine.
Quand on a publié le premier livre de Grail Marcus, Lipstick Traces, il y a trois domaines principaux dont parle Grail Marcus. Il parle du mouvement Dada, et au catalogue, on a des titres du mouvement Dada, d'auteurs Dada avant d'avoir publié Grail Marcus, on a des livres de Georges Ribon d'Essène, on a des livres de Richard Hulsenbeck, on a des livres de Raoul Haussmann. Grail Marcus attaque un autre problème dans son livre, c'est-à-dire tout le mouvement lettriste et le mouvement, disons, pré-situationniste. Avant de publier Lipstick Traces, j'ai publié en 1985 une somme énorme sur la question, c'est-à-dire sur toute la genèse du mouvement situationniste qui s'intitule « Documents relatifs à la fondation de l'international situationniste » et j'ai offert une masse de documents tout à fait rares et inconnus. Et la troisième partie du livre de Grail Marcus et les Sex Pistols et le concert, le premier concert des Sex Pistols qui fonctionne un peu comme révélateur dans son analyse. On va sortir un livre sur toute l'aventure punk des Sex Pistols. Graine Marcus parle d'un auteur que j'aime beaucoup et qui est à notre catalogue, qui est Norman Cohn, qui a étudié les mouvements millénaristes, et on a un livre de Norman Cohn à notre catalogue. Non point que quand un auteur parle d'un livre, on doit publier tout ce dont il parle, mais il s'avère que quand on s'intéresse à quelque chose, ça rentre dans un état d'esprit, dans un esprit de famille culturelle, dans un état de préoccupation qui est commun aux auteurs qu'on publie et à notre propre maison d'édition. C'est-à-dire que même si chaque livre est différent, je ne crois pas qu'un auteur contemporain ou un auteur du passé qui se trouve à notre catalogue ait à rougir de se trouver en compagnie d'un autre auteur dans la même liste. Et ça, je trouve que c'est une chose assez originale dans le paysage actuel, c'est-à-dire que j'ai réussi à constituer une maison d'édition qui a une identité.
Le sous-titre du livre de Graine Marcus est le suivant, une histoire secrète du XXe siècle, et dans le texte qui ouvre votre catalogue, Gérard Bérébi, vous évoquez les autres choses, les autres choses que vous mettriez en valeur. Au début, donc, vous choisissez de publier les livres que les autres n'ont pas publiés, donc de rééditer les ouvrages qui ne sont plus disponibles, ou de traduire ce qui n'a pas été traduit. Et vous résumez tous ces livres par cette expression « les autres choses ». Donc une histoire secrète, un peu souterraine, que vous mettez en avant, comme Graine Marcus tente de le faire dans son ouvrage. Donc, évidemment, à quoi renvoient ces autres choses donc, que les autres n'auraient pas fait et que vous seriez un peu le premier à mettre en avant?
Tout d'abord, il y a une explication sémantique à donner, à savoir que le nom de la maison d'édition Alia a différentes significations. À l'origine, la signification première et la plus drôle que je puisse donner, c'est qu'on s'est inspiré des toilettes à Alia, et quiconque va aux toilettes, tout au moins pour les hommes, parce qu'un homme, c'est debout devant une cuvette de toilette, lit deux fois sur trois dans la journée le nom d'Alia, si on a une baignoire, si on a un bidet, quoi que ce soit. Et j'ai trouvé assez amusant de donner le nom de toilette à une maison d'édition, c'est-à-dire à une entreprise culturelle. Dans un deuxième chose, il y a d'autres significations, et la plus probante est en latin, alia voudrait dire les autres choses, et ça correspond de manière inconsciente au fond à la démarche intrinsèque de notre recherche et de notre création éditoriale, c'est-à-dire qu'aucun domaine, aucune discipline, aucun sujet ne nous est étranger sur le temps historique, mais en même temps, nous intervenons, si on analyse notre catalogue, dans les différents domaines de l'histoire et les différents domaines de la culture, mais on a toujours le chic pour révéler quelque chose qui semblait marginal, mais qui a joué un rôle déterminant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le culte du secret de la minorité ou de la marginalité, mais il y a la recherche, à travers l'histoire et dans le monde contemporain, de ce qui est mis sous le boisseau, de ce qui est discrètement effacé ou écrasé au détriment d'autres choses dont on parle beaucoup plus, mais des choses qui ont eu un rôle important et qui ont eu une influence sur d'autres choses qui se sont développées.
Alors on peut aussi revenir sur l'aspect graphique et le format de vos livres, une manière aussi de vous distinguer. Les livres sont soit trop grands, soit trop petits par rapport au format habituel. Il y a des livres qui ressemblent presque au format poche, hein, comme ce Nikon ou la petite collection d'essais. Et puis il y a ces livres, notamment ces livres sur la musique, qui sont très larges, très hauts, qui comportent beaucoup de pages, avec un jeu savant à chaque fois sur les horizontales et les verticales. Donc, il y a aussi une manière de vous démarquer, et notamment aussi par le prix de vos ouvrages.
Je vais répondre à l'envers. Le prix de mes ouvrages est une chose déterminante, c'est-à-dire que il suffit d'ouvrir un petit peu les yeux pour voir que pour tout un public qui s'intéresse aux livres que je publie, le problème premier qui se pose, c'est le problème du prix. Alors on peut se dire, ce livre coûte 30 euros, on le vend 30 euros. Moi, je ne pose pas le problème comme ça. Je me dis, le public qui va s'intéresser à ce livre peut payer 12 ou 15 euros, donc on se débrouille en ayant une économie de moyens. à faire en sorte que ces livres se retrouvent à un prix abordable. Quant à l'identité graphique de nos livres, dans beaucoup de maisons d'édition, on lance une collection, on prend un directeur artistique ou un graphique, on lui demande de créer une conception graphique pour une collection. Si au bout de 3 mois ou au bout de 6 mois la collection ne marche pas, on vire le graphiste. Moi, je travaille avec Patrick Lebedev, qui a fait la première couverture de mes livres, qui a fait la dernière et qui les a toutes faites. Et on n'a pas toujours eu du succès, on a eu des moments difficiles, des passages dans le vide, et si vous voulez, je n'ai pas décidé de changer de graphiste. Et puis, ce qu'on fait dans la conception graphique de nos livres, c'est exactement ce qu'on fait aussi dans le contenu de nos livres, c'est-à-dire qu'à notre catalogue, on a publié un ouvrage qui s'appelle « Livres et typographies », qui est un ouvrage qui, pour l'époque actuelle, peut paraître comme quelque chose d'un peu martien, d'un peu extraterrestre, dans la mesure où les livres sont faits n'importe comment, et on applique à notre façon, c'est-à-dire de manière modernisée, les règles de base de la typographie, et on a un certain savoir-faire dans l'étude de la page, dans l'étude de nos couvertures, dans le choix des couleurs, dans le choix de la typographie, c'est-à-dire qu'on fait pas n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est pas parce que la tendance va dans un sens qu'il faut s'engouffrer dans la tendance, et 3 mois après la tendance change, on va s'engouffrer dans l'autre tendance, et en faisant ça, c'est pas qu'on perd son âme, mais en faisant ça, c'est qu'on n'a pas d'âme du tout, dès le départ. Et comme je pense qu'ici, il y a un vrai travail de fond qui se fait, c'est-à-dire qu'on a des idées à revendre, on n'en manque jamais. Donc à partir du moment où on les met en forme, chacun participe à son niveau pour que l'ensemble de la chose ait une originalité. Et ce n'est pas l'originalité pour la recherche de l'originalité, c'est une originalité qui s'inscrit dans le cadre d'une invention éditoriale et les choses se renvoient les unes aux autres.
Là, vous publiez des ouvrages sur la musique qui sont exclusivement des ouvrages traduits. Il n'y a pas d'ouvrage français pour l'instant sur la musique à votre répertoire. Alors, est-ce qu'il y a une absence véritable qui vous oblige comme ça à aller voir ailleurs ou est-ce qu'il y a un manque de ce point de vue-là en France qui ne ferait finalement qu'imiter ou copier ce que d'illustres aînés ont déjà fait et commis ailleurs?
C'est un problème qu'on a trouvé dans la pseudo-rock critique française. C'est-à-dire que tant que tous ces livres-là n'étaient pas traduits, c'est bien le moins que d'attendre d'un rock critique français qu'il parle l'anglais. Et à partir de là, je crois que je ne blesserai personne en disant que tous les auteurs que j'ai publiés, avant d'être traduits, ont été largement pillés par pas mal de gens sur ces 20 dernières années, voire ces 30 dernières années. Maintenant, c'est plus tout à fait la même chose dans la mesure où ces livres existent. Quant aux auteurs français dans ce domaine, je n'en ai pas encore remarqué de suffisamment bon, mais je ne suis pas au courant de tout. Mais quand même, avec ce qu'on fait, on reçoit pas mal de choses sur la question. Je n'ai pas trouvé de texte suffisamment bon pour décider de le publier, mais s'il y en avait, je le ferais tout de suite.
Jarrah Berhebi, qu'est-ce qu'un bon éditeur, au bout du compte?
C'est quelqu'un qui fait vendre un livre. Et c'est paradoxal de dire ça, dans la mesure où il y a plein de gens qui font de la merde et qui vendent des livres de façon effrayante. Mais si vous voulez, pour moi, un bon éditeur, c'est quelqu'un qui découvre quelque chose, c'est quelqu'un qui comprend ce qu'il y a dans l'air du temps, et quelqu'un qui a l'audace de proposer quelque chose qui n'est pas du tout donné comme gagné d'avance, et qui réussit à obtenir un certain écho quant à ses choix.
Cause I wanna be.
Quels échos cette chanson de Johnny Rotten des Sex Pistols, Anarchy in the UK, a trouvé chez Graham Marcus et comment il l'a associé à beaucoup d'autres choses. C'est ce que dit l'épilogue de son livre, donc que je vais vous lire un petit extrait. Je cite, chanson punk, un homme est debout dans une pièce vide, à part un matelas, quelques bouteilles, quelques livres. De sa fenêtre, il peut voir une foule rassemblée devant un énorme bâtiment public tout neuf. Le lieu est incertain, impossible de dire s'il s'agit du présent, de quelque futur sans avenir, ou si le caractère familier et convenu de la scène la situe effectivement dans le passé. Un dignitaire descend d'une tribune pour couper un ruban, alors que la foule se presse pour mieux voir, l'homme dans sa chambre entonne une âpre mélopée, le nom étranglé de quelqu'un qui a passé trop de temps à se parler à lui-même, une voix qui a abandonné tout espoir d'obtenir une réponse. Convaincu que parler un langage que tout le monde peut comprendre, c'est ne rien dire, l'homme, dans la chambre, appelle tout à la fois Hugo Ball, battant des ailes au cabaret Voltaire, Volman, poussant des râles et soufflant au tabou, les mémoires glossolaliques de Debord, le désordre indicible de Johnny Rotten à la dernière minute de Holidays in the Sun. Convaincu maintenant que dénoncer le vieux monde, c'est le tuer, et que prophétiser un nouveau monde, c'est lui donner naissance, l'homme réactive les discours berlinois hargneux de Lusenbeck, le sermon de Michel Moore à Notre-Dame, les décrets de l'international lettriste du projet d'embellissement rationnel de la ville de Paris, la carnavalisation de mai 68 par l'international situationniste, l'appel à la destruction d'Anarchy in the UK. Donc voilà la coupe verticale que produit Graham Marcus, associant ainsi les dadaïstes, les situationnistes, les lettristes, Johnny Rotten, jusqu'à Jean de Leyde, hein, ce roi de Münster au XVe siècle en Allemagne. Et à cette coupe verticale s'opposent en quelque sorte les errances ambiantes de David Toop, dont l'ouvrage Ambient Music est paru aux éditions Cargo. Alors pour changer d'atmosphère, pour passer justement de la survivance de Graham Marcus aux errances de Brian Eno et de David Toop, on va écouter Music for Airports. Justement, nous sommes en 1978. Thank you. Music for Airports de Brian Eno, 78, sous-titré Ambient One, donc premier essai de musique ambiante, musique d'ambiance, cette musique qui passe dans le paysage, qui donne figure au lieu, lieu d'écoute, lieu de déambulation. Alors l'ambiance est également le grand sujet du livre de David Toop, Ocean of Sound, paru en 96 à Londres et publié en français il y a 2 ans. Par les éditions Cargo. Alors ce livre est sous-titré Ambient Music, Monde imaginaire et Voix de l'éther. Voix de l'éther en référence à l'étherphone, bien sûr, de Léon Thérémine, cet instrument dont on joue de loin par simple mouvement des mains à proximité d'une antenne radio, un instrument qui a été montré pour la première fois en 1920. Donc nous allons maintenant nous intéresser à ce deuxième éditeur dont on parlait au début, après Alia, les éditions Cargo. Alexandre Lomonier, bonjour. Donc vous êtes directeur des éditions Cargo, directeur de la revue Nomadsland, qui n'a pas sorti de numéro depuis quelque temps déjà, mais qui était relayé par un autre projet, disons plus ambitieux peut-être, celui de publier des textes intégraux de musique, d'ouvrages sur la musique populaire, qui viennent d'Allemagne, des États-Unis ou d'Angleterre. Quel était le projet de Nomadsland et comment il s'est trouvé relayé par le projet des éditions Cargo ?
Le projet de Nomadsland était une sorte de plateforme d'études et de publication de textes sur les musiques contemporaines, entre guillemets populaires, sachant que le terme populaire est un peu galvaudé et peut s'appliquer à tort et à travers. Donc Nomadsland était une tentative pour commencer à publier des textes sur l'ambiance, sur la techno, sur le hip-hop, sur des styles de musique qui sont pour certains devenus populaires. Le hip-hop a remplacé le rock en termes de popularité, la techno également. Donc on concevait les sommaires de Nomadsland en fonction d'un thème principal et après on se débrouillait pour trouver des textes ou les commander à des auteurs. Donc Nomadsland était vraiment une plateforme de tentatives de publication de textes sur la musique qui s'est prolongée avec Cargo, puisque avec les éditions Cargo, on a publié en entier les livres dont certains extraits étaient parus dans Nomadsland.
Alors quelle nouvelle tradition d'écriture sur la musique vous avez ainsi exploré et qu'on ne connaissait pas en France finalement ?
Est-ce qu'on peut parler en termes de tradition, je sais pas. Si on prend le livre de David Toop, Ocean of Sound, qui cristallise un peu le type d'écriture sur la musique qui a émergé un peu ces dernières 10 années, on est très éloigné d'une approche d'un Grell Marcus ou de Nick Cohn. On est dans un autre type d'écriture. David Toop trace des liens entre différentes musiques d'une autre manière que la critique rock depuis les années 60, enfin depuis l'arrivée en fait du rock. Donc c'est une écriture quelque part un peu plus littéraire qui est plus une dérive par l'écriture à l'intérieur de plusieurs styles de musique, même si le sujet du livre c'est l'ambiante musique, donc les musiques d'ambiance qui peuvent être à la fois, pour lui sonnera peut être de la musique d'ambiance, Brian Eno évidemment, Charlie Parker, Varese, les futuristes, Aphex Twin. Et c'est dans cette espèce de on va dire de mélange des genres que se passe l'écriture en fait. Je pense une écriture très très personnelle. Et je pense que David Toop symbolise bien la manière dont on peut aussi écrire sur la musique, c'est-à-dire pas tant d'une manière vraiment historique ou en mettant en valeur les enjeux sociaux, mais c'est un livre sur le son plutôt qu'un livre sur la musique. Je crois que c'est ça qui est devenu important dans les textes qui ont été écrits ces dernières années sur la musique, c'est que l'attention elle s'est focalisée sur le son et non plus sur la musique en tant que produit, en tant que phénomène social. Et c'est vrai que une approche on va dire sonore modifie beaucoup évidemment l'écriture et la manière de présenter les musiques.
Malgré tout, vous avez quand même publié un certain nombre d'ouvrages à visée historique sur les musiques électroniques, sur le hip-hop, qui se veulent des ouvrages de référence, c'est-à-dire qui veulent reprendre, pour ce qui est des musiques électroniques, un peu le travail qu'avaient accompli les grands critiques rock américains pour l'histoire du rock et la musique noire aux États-Unis. Donc il y a aussi, de la part des jeunes critiques anglais, allemands, une volonté d'eux-mêmes produire des textes d'histoire vraiment extrêmement réfléchis et documentés sur ces musiques-là.
Oui, tout à fait. C'est vrai que la critique rock a une tradition plus ancienne. Et il y a eu beaucoup de critiques rock, que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre. Les journaux ont beaucoup aussi aidé à la naissance et à l'avènement de cette critique rock. Après, il est évident qu'un livre comme Ocean of Sound de David Toop peut difficilement être lisible si on n'a pas un minimum de moyens historiques pour penser ces musiques-là. Et c'est pour ça que le livre de Ulf Poschardt, qu'on publie en septembre, DJ Culture, remet les choses à plat, au sens où c'est une approche, comme le dit l'auteur, historiographique. C'est-à-dire que c'est à la fois une approche historique et en même temps une tentative pour relire les critiques rock qui ont précédé Ulf Poschardt, de manière à étudier comment s'est faite la critique musicale sur les musiques populaires depuis 40 ans. Donc Poschardt cite beaucoup Gail Marcus, Nick Cohn, Simon Reynolds, Tom Wolfe, Norman Mailer, tous ces gens qui ont tenté à leur époque, et sur parfois des styles très différents, d'écrire sur la musique. Et c'est vrai que c'est difficile a priori de lire certains ouvrages, déjà sans avoir un minimum les disques dont il est question, et deuxièmement un minimum de connaissances historiques sur la manière dont les choses se sont passées, puisqu'on a affaire, si on prend uniquement la techno, en fait la techno n'existe pas, c'est une infinité de sous-genres, de types différents, des fois dans la même ville on a deux sons différents. C'est vrai que si on n'a pas idée de la multiplicité et de ces musiques-là, c'est difficile de comprendre quels sont les enjeux, évidemment.
Organ and the Fender bass, okay? And then the bongos will come in the second half like everything else. All right, here we go. Organ, Fender bass, and piccolo. Now, Larry, can you switch that motor on for the verses and off for B, okay? Okay, turn it on for this one. Here we go. Let's make 21, please. Are we all set for that thing where everything drops out, builds up? Okay. Wait a minute, where are we? See, what it is he's the organ's on 2/4, and you guys think it's the 1-beat, don't you? Here we go. Play hard and strong all the way. And watch me on that part now.
Une prise alternative des Good Vibrations des Beach Boys, le disque Smiley Smile 67, le grand disque des Beach Boys, orchestrée par Brian Wilson, dont on entendait la voix. Brian Wilson, dont il est question aussi dans l'ouvrage de David Toop, Ocean of Sound. Et voilà justement ce qu'écrit David Toop sur les séances de studio de Brian Wilson à l'époque de Smile. Alors voilà ce qu'il écrit. Donc les enregistrements pirates de séances de studio révèlent un musicien complètement immergé dans le son, un dub instrumental captivant de Till I Die avec juste une guitare basse, un vibraphone et l'entrée progressive d'un orgue lointain, puis la batterie, les harmonies vocales et ensuite une boîte à rythme calme. Dans une autre séance intitulée George Fell into his French Horn, on entend des expérimentations de cuivre dont certaines sonnent comme de la musique rituelle tibétaine, des glissandi à la varèse ou du free jazz, au milieu desquels on décèle aussi parfois un amusement certain à évoquer un rire semblant tout droit sorti de dessin animé. On voit l'intérêt de David Toop pour les expérimentations sonores de Brian Wilson avec les Beach Boys, pour Brian Eno, pour tout ce qui concerne effectivement l'ambiance musicale, le son lui-même, donc les errances d'un son à l'autre et non plus les interprétations verticales de Gray Marcus. Tout cela effectivement est à l'œuvre dans les livres que font paraître les éditions Cargo, dont DJ Culture du grand critique allemand Ulf Pochart, qui a été traduit et qui paraîtra à la fin du mois d'août. Nous allons maintenant nous intéresser à un peu autre chose qu'à une maison d'édition. Nous allons nous intéresser à une revue d'un nouveau genre, genre audiovisuel, donc une revue sans texte, sans mots, une revue d'images et de sons, hein, les uns séparés des autres. Petit livre d'images d'un côté et double CD de l'autre. Ça s'appelle OWN, O-W-N, OWN. C'est conçu et réalisé par Jean-Marie Courant et Stéphane Langlois pour les images et Jean-Philippe Verdun alias Readymade pour les sons. Le numéro, un deuxième numéro, est consacré au double, à la fois dans les images et dans les sons. Exemple d'hybridation, extrait du début du deuxième CD.
Sex, drugs, pissing on a mold, fucking up the music.
Ever since I was a kid, it seemed I collected something. At one time it was comics and magazines about sports. Then when I was 16, I started collecting jazz records.
Hello, everybody.
We take you to the hotel lot.
Then for some reason I got obsessive about it. No matter how many records I get, I'm never going to be satisfied. What am I going to do? This is like being a junkie.
Martinet and Brooklyn.
Nous sommes dans les bureaux de Unit, l'agence de graphisme qui a conçu cette revue.
Je suis graphiste, Stéphane Gallois, avec qui je m'occupe de la revue, est photographe, mais on va dire que sur OWN, on est principalement tous les deux directeurs artistiques et accessoirement graphistes et photographes, dans un deuxième temps, on va dire. Mais il y a un travail de direction artistique dans le sens où il y a toute une sélection d'images dans la revue, certaines qui sont des travaux d'artistes plasticiens, enfin qui utilisent la photographie, d'autres qui sont des photos d'amateurs, d'autres qui sont des... Enfin bon bref, c'est tout un ensemble de photos ou de documents enfin, photographiques.
Alors quel est le projet de la revue ?
Le projet de la revue, c'est présenter une sélection d'images, enfin c'est... Le modèle qu'on avait en tête, c'était celui, on va dire, d'une compilation de disques comme elles peuvent déjà exister, de faire ça avec l'image autour d'un thème pour fédérer comme ça ces images, pour avoir un angle aussi pour les choisir et ensuite travailler du vis-à-vis et de la rencontre de ces images. Quoi. Ce qui nous intéresse, c'est de présenter des images qui nous semblent intéressantes et qu'on a envie de montrer, de présenter, mais aussi de jouer de leur rencontre, on va dire, et de ce que peut produire leur rencontre, leur vis-à-vis, etc. Comment elles peuvent se perturber, s'enrichir.
Alors OWN, pourquoi OWN d'ailleurs?
OWN, bah parce
que
OWN
veut dire appartenir, mais donc ça appartient à tout le monde.
Non, OWN, c'est l'idée, ouais, c'est ce qui m'appartient. Et c'est le mien, et c'est ce qui m'est propre finalement. C'est ce qui finit par au final, ce qui finit par me commencer l'idée de ce qui me caractérise
oui,
au final, quoi.
L'intime, oui, c'est ça, le propre, quoi.
Le propre. C'était aussi un peu ça l'idée de présenter un choix de d'images ou un choix de morceaux. C'est aussi parler de comment on se construit avec avec un tissu de référents d'images, avec une culture musicale. Voilà, comment l'emprunt, comment l'agrégation de choses qu'on a écoutées, qu'on réécoute, ou d'images qu'on voit et qu'on revoit, comment toutes ces choses finissent par nous constituer, quoi.
Et alors vous, Ready Made, de votre nom, de votre pseudonyme justement, comment vous avez interprété cette thématique du double ?
Bah, en fait, moi j'ai réagi par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui de thématiques plus ou moins réussies, etc. Enfin bon, et d'essayer de proposer quelque chose qui à l'époque n'existait pas forcément encore, c'est-à-dire en fait faire d'une part un CD qui soit un choix pas bête, mais juste une association de morceaux voilà, que j'agençais selon, je sais pas, crescendo, on va dire, ou j'en sais rien, bon. Enfin, des morceaux qui nous plaisaient, qui me plaisaient. Et le deuxième CD, ça devait être, en fait, ces morceaux-là détruits, en fait, d'une certaine manière. En fait, c'est-à-dire que je foutais complètement en l'air les morceaux. C'est-à-dire, je les pitchais, je changeais les tempos, je les inversais, je mettais la voix de l'un sur le truc de l'autre, je mélangeais les genres. Dans sa forme initiale, c'était vraiment ça, en tout cas. C'était vraiment un truc, les cordes d'un tel sur le rythme de l'autre, etc. Mais pas de faire un truc de DJ de base, parce que je trouve ça extrêmement chiant, et je préférais faire quelque chose de faire un travail, justement, sur les fréquences, et, oui, de foutre en l'air. C'était vraiment un travail de sape, en fait, de chaque morceau, mais en faisant qu'un, en fait, en se retrouvant avec une espèce de monstre, en fait, quoi. La compilation a été faite selon le bourbier du CD2, en fait, en vrac. C'est-à-dire que j'ai commencé à prendre des morceaux, à les tripatouiller, etc., à les mélanger, machin, bon, à faire ce truc. Et puis après, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que j'ai utilisé comme morceau ? Et puis ensuite, on a un petit peu réfléchi et on s'est dit, non, mais autant essayer de prendre les morceaux. Essayons de compiler ces morceaux les uns après les autres comme un mode d'emploi, c'est-à-dire autant que faire se peut, et à l'époque c'était ça, c'est-à-dire là j'ai pris l'a cappella de ça, et ben on va prendre l'a cappella et on va mettre l'a cappella et les gens vont écouter l'a cappella. C'est voilà, c'est-à-dire que c'est le CD1 est plus le mode d'emploi, ce serait plus le texte, oui.
Questionnant, parce que vous faites une revue, une vraie revue, sans texte, sans article, sans manifeste, sans message, et pourtant, par le biais donc, des images reproduites, par le biais des disques, ouais. Il y a quelque chose qui est dit. Alors, qu'est-ce qui est dit exactement ? Et qu'est-ce que ça nous apprend sur le statut de l'image, le statut du son ? Est-ce que c'est un remix, un mix
Mais on fait pas, enfin, je sais pas si on fait les choses dans le. Comme on n'a pas un message ou un discours qui serait préexistant au travail.
Non, mais il se déduit un peu de.
Oui, voilà, c'est ça. C'est plutôt une pratique. Une pratique de laquelle on peut tirer comme ça des finalement a posteriori on pourrait presque construire un discours à partir du travail effectué, mais l'idée c'est vraiment plutôt de travailler avec les images et de voir ce qu'il est possible de faire avec, enfin c'est un travail de composition, ouais. Et un travail aussi autour de la lecture, c'est pour ça qu'on aime bien, enfin pour la revue d'images on a tenu à cette idée du thème. C'est que les mélanger, les faire se rencontrer, donc photos d'artistes, photos d'amateurs, documents, enfin toutes sortes de registres et de catégories d'images, les faire se rencontrer pour voir ce qui peut se produire entre ces images, et les laisser un peu libres, toutes seules. C'est-à-dire que quand on voit une monographie d'artistes, on a affaire à un travail global qui... qui a un sens par rapport à, voilà, à une évolution dans le temps, la construction d'un travail, etc. Là, c'est aussi laisser les images un peu toutes seules, exister de manière autonome. Tout amoncellement d'images produit inévitablement quelque chose de l'ordre d'une vanité contemporaine. Mais là, il n'y avait pas que cette intention-là. On a vraiment pris le thème du double, toutes les significations de ce thème-là, qui sont multiples, la gémellité, la duplicité, la reproduction, enfin, que sais-je, etc. Et on a essayé de broder quelque chose autour de toutes ces occurrences, enfin, du thème et de... Mais le thème est jamais, c'est pas une manière de traiter le thème, de tenir un propos sur le thème, c'est plutôt avoir ce thème-là comme un fil conducteur pour la lecture d'images qui n'existent pas que par ce thème, enfin je sais pas comment dire.
Pour le son justement, est-ce que ça produit un peu le même effet? Pourtant c'est difficile de faire de la succession de différents morceaux une vanité. Ça, c'est un autre registre, le registre du sonore.
Aujourd'hui, on est dans une espèce de constat. Je veux dire, s'il y a un engagement, il y a un engagement dans le choix. Moi, je suis vraiment dans l'ordre uniquement du sensible ou de... Mon travail, c'est qu'est-ce que j'aime comme musique, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est ça.
Voilà. C'est en ça que c'est une revue.
Et c'est juste ça. C'est-à-dire que moi, c'est un travail complètement subjectif. Moi j'aime cette musique là, j'ai pas envie de faire une compile lounge ou machin, moi c'est ça que j'aime.
On va faire quoi justement si c'est pas une... D'accord, on a compris que vous voulez pas faire de compilation, il y a un CD de mix classique, mais alors quoi finalement, à quoi ça sert d'hybrider tout ça, de faire des bootlegs quand Richie Hawtin fait un CD de mix, on comprend son projet, de déconstruire complètement chacun des CD, de les faire disparaître littéralement, faire disparaître chacun des morceaux dans un nouveau morceau de 58 minutes qui sera une nouvelle œuvre construite avec les briques déconstruit des anciennes. Donc là, il y a quelque chose de positif, on comprend l'histoire. Mais là, en dehors du fait qu'il s'agit de détourner des morceaux, de faire des hybridations bizarres, quel est le résultat, quel est le sens du résultat?
C'est un peu la même chose que celle de Richie Hawtin. J'ai envie d'exposer des musiques que j'aime, et j'ai envie d'utiliser ces musiques que j'aime comme des outils pour faire quelque chose que j'ai envie de faire. Ça s'arrête là.
Alors quoi, c'est quoi cette chose? À quoi ça ressemble?
Ces morceaux-là interviennent comme des instruments de musique d'une certaine manière. C'est-à-dire, je prends la rythmique de l'un, la voix de l'autre, etc. Ça se rapproche effectivement du truc de Richie Hawtin, effectivement.
Parce qu'il y a eu un discours, notamment en Angleterre, sur ces questions-là, qui consiste à dire nous vivons dans un monde où les musiques circulent, sont diffusées partout en tout temps. Et devant ce surplus, on pourrait dire cette masse informe et trop grande de choses disponibles, on va en les transformant, en les utilisant, en les détournant, produire un discours positif ou de critique vis-à-vis de cette circulation effrénée de ce flux insensé et informe d'informations.
C'est différent là, parce que c'est un travail. La chose dont vous parlez, c'est un truc. C'est un travail. Je veux dire, ça se rapprocherait plus du bootleg, en fait, c'est-à-dire prendre un morceau de Whitney Houston et de l'inclure sauvagement dans une rythmique électro.
Donc c'est pas votre but, vous voulez faire comme du beau, vous voulez faire du beau quand même.
Moi j'ai envie de faire du beau là-dessus. Ouais, là-dessus j'ai envie de faire du beau. C'est-à-dire j'ai envie de faire du beau, en tout cas de l'intéressant, mais avec du beau en fait.
Donc pas du monstrueux alors.
Mais le monde.
Ah, mais le monde c'est pas incompatible.
Son nom, cherchez le garçon.
Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce petit voyage dans l'histoire de la musique, dans les écrits sur la musique, dans les modes d'exposition de la musique? Alors, il y a eu d'abord l'histoire secrète, complexe, rhizomatique de Grail Marcus, et puis il y a eu ensuite les errances de son à son, de musique à musique de David Toop, et puis enfin la pure et simple exposition, exposition des images et des sons. Par la revue Aune, grâce à Jean-Marie Courant et Jean-Philippe Verdun, donc une manière finalement de moins en moins s'impliquer dans le choix, dans l'agencement des musiques et des morceaux et des sons, et de laisser finalement l'auditeur, le lecteur choisir. On écoute le deuxième CD de la revue Aune, donc le CD bootleg, remix, le CD en vrac, où tous les morceaux du CD 1 sont mélangés. Vous avez pu entendre la voix de Taxi Girl avec tout autre chose, évidemment, que ce qu'il y avait sur le morceau original. Tout ça concocté par Jean-Philippe Verdun, alias Readymade. Électrophonie s'achève, une émission réalisée par Laurent Rousseau et mixée par Julie Garraud.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 22 juin 2002.